Bonjour et bienvenue, ici Émilie du blog Éveil et Nature. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de réussite scolaire et soulever cette petite interrogation, et si les clés étaient dans la nature? Et oui, vous avez tous entendu parler d'aide individualisée, de soutien scolaire, d'aide personnalisée, de programmes personnalisés, de réussite éducative, de stages de remise à niveau. Je m'arrête là. Je pourrais en ajouter des lignes, tant les dispositifs visant à la réussite scolaire et luttant contre l'échec scolaire sont nombreux, et pour cause. Et d'ailleurs, peut-être que de tels dispositifs ont déjà été proposés à vos enfants. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, loin de moi l'idée aujourd'hui de m'attaquer à ces outils, mais je vais toutefois partager avec vous mon point de vue à leur propos. Mais avant, j'aimerais vous confier ceci. En fait, j'avais l'intuition que certaines clés de la réussite scolaire étaient dans la nature, entre guillemets bien sûr, et depuis quelque temps je m'intéresse à l'avancée de la recherche à ce propos, et je me réjouis, parce qu'il y a des dizaines d'études qui confirment mon intuition. Alors, cet article a pour but de partager avec vous mes dernières trouvailles sur ce sujet, et il nous faudra ensuite trouver un moyen de passer à l'action, et vite, parce que nos enfants grandissent, évidemment ce serait dommage de ne pas leur faire profiter de ces bonnes nouvelles. Alors, je vais donc commencer par mon témoignage de maîtresse d'école à propos d'élèves en difficulté. Donc je vais vous parler de mes débuts dans ce métier, c'était il y a 7 ans, et nous expérimentions les premières séances d'aide personnalisée. Vous savez, les enfants qui ont une difficulté passagère et qui restent un petit moment après la classe pour essayer d'y remédier. Voilà, enfin, en théorie, voilà ce qu'est l'aide personnalisée. En pratique, du coup, ce sont bien souvent les élèves avec de sévères difficultés scolaires qui se sont vus abonnés à l'aide perso. Alors, de mémoire, il me semble qu'il existe une étude qui a montré que les élèves qui bénéficient de cette aide en CP sont majoritairement ceux qui s'y collent encore en CM2. Voilà, ce qui ressemble à peu près à ce que j'ai pu observer. Bon, désormais, l'aide personnalisée a été un petit peu transformée, mais voilà. Et maintenant, on peut se demander quel bénéfice pour ces enfants que l'on dit élèves en difficulté. Alors, peut-être qu'il y a passagèrement des bénéfices sur certaines petites compétences scolaires. Mais voilà, mon point de vue, c'est que malheureusement, je pense qu'il s'agit souvent de temps perdu, parce que toujours de mon point de vue, ces mêmes enfants gagneraient largement au change en ayant à la place un temps de jeu libre et actif dans un parc sympa ou un jardin un peu touffu par exemple. Et comme je vous le disais, cela est sans cesse prouvé par de nouvelles études. Maintenant, je vais vous parler quand même de quelques déclics positifs que j'ai pu observer chez des élèves dits en difficulté scolaire. Alors, ce n'était pas en tant que maîtresse d'école. Alors, il y en a eu, bien sûr, mais j'ai bien souvent eu l'impression que ces déclics, ils étaient dus davantage à une maturation de l'enfant. Vous savez, il a passé un nouveau cap, par exemple. Voilà, plutôt qu'à un dispositif particulier. Mais non, en revanche, les déclics, ceux que j'ai en mémoire, eh bien, donc je n'étais pas encore enseignante, c'était avant, j'étais animatrice nature. Et j'encadrais alors des classes de découverte à la campagne ou à la montagne. Donc les séjours duraient généralement 5 jours, parfois jusqu'à 2 semaines. D'ailleurs, c'était plutôt pour les petits parisiens, puisqu'il y avait une très bonne subvention de la ville de Paris. Voilà, donc il fallait attendre généralement 3 ou 4 jours, et puis ça se manifestait de diverses façons. Alors souvent c'était l'enseignant ou l'enseignante de la classe qui nous disait, par exemple, « Oh là là, c'est incroyable, le petit Brian, je le reconnais plus, je découvre un nouveau Brian ». Parfois c'était l'enfant lui-même qui en témoignait. Je me souviens clairement, par exemple, d'un enfant qui s'appelait Moussa et qui m'avait dit « Moi, je veux pas retourner à Paris, je veux élever des chèvres comme Jean-Marc. » Et donc Moussa, le début du séjour avait été un peu difficile. C'était un enfant qui était anxieux, qui était sur la défensive, parfois agressif les premiers jours. Et petit à petit, il était devenu en gros souriant et joueur. Voilà, du coup, dans tous les cas, une relation nouvelle émergeait entre l'enfant et les autres enfants, et ses pères, qui eux aussi, du coup, le découvraient sous un autre jour, et ils lui permettaient aussi d'accéder à un autre rôle dans le groupe, et plus dans un rôle conflictuel. Et puis, une nouvelle relation aussi avec l'enseignant ou l'enseignante de la classe. C'était, en quelque sorte, comme un nouveau départ, mais donc c'était bien dans le contexte de classe verte. Voilà, alors, bon, voilà, c'était mon témoignage. Maintenant, j'aimerais vous présenter cette étude à l'appui. On va couper, je refais. Voilà, c'était mon témoignage. Et maintenant, j'aimerais aborder le point suivant. Nature et réussite scolaire, 7 études à l'appui. Et il y en a d'autres. Donc voici une sélection d'études qui, mise bout à bout, ne laisse plus place au doute. D'être en contact avec la nature favorise réellement la réussite scolaire d'un enfant. Et tout de suite, la première étude qui se base sur des tests standardisés qui montrent qu'il y a une meilleure réussite dans les établissements qui utilisent l'environnement comme contexte d'intégration des apprentissages. Donc ça, c'est un dispositif qui existe dans certains établissements aux États-Unis qu'ils appellent Environment as an Integrating Context for Learning. Et donc dans ces écoles, autant que possible, les apprentissages se font en prenant directement appui sur l'environnement immédiat de l'école. Donc les enfants sont plus souvent dehors, y compris dans des lieux de nature, et acteurs de leurs apprentissages. Alors d'après cette étude, les élèves d'école intégrant de tels programmes, donc ils obtiennent en moyenne de meilleurs résultats aux tests standards, que ce soit en mathématiques, en écriture, en lecture et en sciences. Et ce n'est pas tout, cela favorise aussi l'estime de soi des enfants, leur enthousiasme à apprendre, leur fierté de savoir, et attention, je ne m'arrête pas là, les problèmes de discipline sont également bien moindres que dans les autres établissements, quelle que soit la zone d'implantation de l'établissement, ainsi que l'absentéisme, voilà, rien que ça. Donc je vous laisse découvrir dans l'article les liens qui permettent d'accéder à deux études qui vont en faveur de ces résultats, et je vous assure, j'en ai encore trouvé d'autres. Nous en arrivons au deuxième point, et abordons les fonctions cognitives, qui seraient plus performantes si l'enfant est proche de la nature. Et oui, les capacités cognitives d'enfants habitant un milieu urbain très pauvre en termes de biodiversité naturelle ont été testées. Ensuite, les mêmes tests ont été proposés à certains de ces enfants après qu'ils aient emménagé dans un lieu plus proche de la nature, donc cela peut être un quartier urbain plus vert ou une vue sur un parc par exemple, et les résultats ont été significativement améliorés dans le deuxième contexte, donc en étant plus proche de la nature. Je n'en dis pas plus, si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Troisième point, il s'agit de la concentration, qui serait bien meilleure après une promenade dans un parc. Voilà, d'après cette étude, 20 minutes de marche seulement dans un parc urbain suffisent à élever notablement le niveau d'attention d'un enfant. Et cela est également vrai pour les enfants qui présentent un déficit d'attention plus sévère. Là encore, je n'en dis pas plus, à vous de voir si vous voulez plus d'infos, vous cliquez ci-dessous. J'en passe au point suivant qui aborde les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité et des améliorations après des temps de jeu libre réguliers dans la nature. Donc, on a ici une étude qui suggère qu'un temps de jeu dehors, tous les jours, permet de diminuer les symptômes d'enfants atteints de ces troubles, et cela est particulièrement efficace si ces jeux ont lieu dans un espace de verdure plutôt qu'à l'intérieur, ou alors plutôt que dans un milieu qui serait dépourvu de nature. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Je passe au cinquième point, qui aborde le stress. Plus le lieu de vie est vert, mieux les enfants luttent contre les situations de stress. Et oui, dans cette étude, les enfants vivant dans un milieu rural seraient mieux armés pour lutter contre le stress. Cela serait lié à la présence de verdure dans leur environnement direct. Donc plus l'habitat est entouré de verdure, mieux les enfants semblent avoir géré les situations stressantes. Là encore, vous pouvez cliquer ci-dessous et nous arrivons au sixième et dernier point qui est le sommeil. Et il est important d'avoir conscience qu'il est indispensable qu'un enfant ait un bon sommeil et de savoir comment améliorer ses qualités réparatrices. Alors, je vous propose en dessous un dossier cette fois-ci sur le sommeil, donc qui rappelle à quel point un enfant qui manque de sommeil a des difficultés à mémoriser et à se concentrer, et qui propose également d'interroger nos habitudes de vie afin d'améliorer la qualité du sommeil de nos enfants. Et le conseil principal, puisque donc ce dossier est en anglais, le conseil principal est de leur permettre de jouer tout autant que possible dehors, dans un lieu de nature, tout simplement. Voilà, nous en arrivons à la conclusion. Certaines études, du coup, mettent le projecteur sur, nous l'avons vu, ces établissements scolaires qui intègrent le milieu naturel à leur programme d'apprentissage et qui réussissent. Il n'y a plus qu'à espérer que cela ça ait petit à petit des retentissements jusque dans nos écoles. Mais ben voilà, le but de cet article, ce n'est pas de questionner les pratiques de classe. Ce serait pourtant fort intéressant, mais je souhaite aujourd'hui m'adresser à vous, parents, qui vous demandez peut-être mais qu'est-ce que je peux faire pour favoriser la réussite scolaire de mon enfant? On en est tous là. Bon, je me doute que vous avez plus d'un tour dans votre sac, et moi, celui que je vous propose ici, m'appuyant sur toutes ces études, hein, c'est toujours le même, simple et à la portée de tous, c'est simplement de permettre à vos enfants de jouer dehors tous les jours, librement, activement, que cela ait lieu aussi souvent que possible, au plus proche de la nature. Et c'est tout. Voilà, concentration, mémoire, plaisir d'apprendre, il est bel et bien prouvé qu'un peu de nature tous les jours va favoriser ses capacités. Alors, peut-être que vous me direz, bon, et si j'habite en ville, comment je fais? Eh bien, pourquoi pas parier sur les parcs à proximité de chez vous? Vous aurez sûrement l'occasion d'accéder à un lieu plus nature un peu plus tard, pendant les vacances ou en week-end. Moi, je vous conseille à ce propos de lire l'excellent article de Guillaume qui a un blog qui s'appelle « Santé des enfants et environnement ». Donc, son article, c'est « Comment aider nos enfants à construire une connexion avec la nature ». Vous pouvez cliquer ici pour accéder à l'article. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez nous donner votre avis sur cet article, si vous pensez que, je sais pas, un petit bain de nature, le plus souvent possible, est-ce que ça peut être bénéfique à la réussite scolaire de votre enfant, de vos enfants, oui ou non, bah partagez votre point de vue en commentaire, cela nous intéresse bien évidemment. Voilà, cette fois c'est terminé, je vous dis à très bientôt.